13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de vous et de vos expériences de vie. Je suis accompagné jusqu'à 16h de ma camarade Ombline. Comment
bonjour.
Allez-vous ma chère?
Bonjour. Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure passée ensemble, il sera question de votre vécu, de votre vie. L'hyperactivité ou trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, dit TDAH, est un trouble neurologique dont les symptômes sont souvent l'impulsivité, des difficultés à se concentrer. On dit que ceux qui en souffrent ont la bougeotte. L'hyperactivité se remarque plus facilement chez l'enfant, mais parfois, il faut toute une vie pour savoir ce que l'on a. 4% des adultes en souffriraient. Être hyperactif, comment cela se traduit-il au quotidien? Comment l'appréhender? Être hyperactif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1.
Et vous témoignez, comme chaque jour, n'hésitez pas au standard d'Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute pour nous écrire. Vous le savez, il y a le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Lauriane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Lauriane?
Alors je vous appelle de la région varoise et j'ai 33 ans.
D'accord. Alors vous, vous avez été diagnostiqué TDAH il y a 5 ans. Vous vous êtes toujours sentie différente à la marge?
Oui, tout à fait. Oui, j'avais quelques difficultés sociales, venant à l'école, un retard un petit peu au niveau compréhension. Bon, après, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Puis au fil des années, il dit, mais j'ai jamais connu quelqu'un comme toi, autant hyperactive, autant dispersée. Et donc, voilà, ça m'a intriguée. Je perdais de plus en plus d'affaires. Je faisais les choses complètement inconsciemment. Je ne me rappelais plus de les avoir fait ou pas.
Mmh. À quel moment avez-vous entendu parler de ce trouble et lorsqu'on vous en a parlé, est-ce que vous vous êtes reconnue tout de suite?
En fait, je ne sais pas vraiment, dans le sens que j'ai pris rendez-vous avec une orthophoniste par un conseil d'un médecin. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Mmh. Et ensuite, de fil en aiguille, en faisant des tests, une orthophoniste m'a dit « il y a de fortes chances que vous soyez TDAH ». Donc, je ne savais pas ce que c'était. Et de là, j'ai fait un test neuropsy. Qui a confirmé impulsivité, trouble de l'attention, tous les symptômes. Et quand j'ai vu tous les symptômes, expliquant ce que c'est, ça a été incroyable de découvrir que finalement, ça met un mot sur toutes mes problématiques au quotidien, environnementales, etc.
Vous sentiez que vous étiez impulsive, que vous aviez du mal à effectuer certaines tâches?
Alors, impulsive, oui, mais je ne le savais pas vraiment. Disons, je suis plutôt très hypersensible au niveau de l'émotion. La moindre petite chose, je m'effondre en larmes. Ou alors, ça peut me provoquer une énorme joie, mais apparemment plus que quelqu'un qui n'a pas ce trouble-là.
D'accord. Et est-ce que vous en parliez autour de vous? Non?
Avant, non, parce que je ne savais absolument pas. Je m'en plaignais pas, disons, je ne savais pas.
Bon, et vos parents? Et vos parents, est-ce qu'ils avaient remarqué tout cela?
Ils ont toujours été dans le déni, ils n'ont jamais remarqué ni quoi que ce soit. La relation n'était pas des plus favorables. Donc même pas ça leur a tilté. Non, personne n'avait remarqué quoi que ce soit.
Alors vous dites que cette hyperactivité est aussi liée à votre hypersensibilité, comme vous me l'avez expliqué. Expliquez-moi dans quel cas c'est le plus problématique?
Par exemple, si quelqu'un vient me dire quelque chose, me faire une remarque, c'est surtout les proches. Après, les gens qui sont à l'extérieur que je ne connais pas, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche plus maintenant.
Ouais.
Parce que j'ai gagné en confiance, etc. Mm-hmm. Mais les proches, le moindre truc, je vais prendre mal ou je vais faire facilement des crises d'angoisse. Je vais tout de suite ramener négatif. On pense souvent très négatif, très anxieux, légèrement dépressif. On a du mal à se remettre des émotions négatives parce qu'elles nous empoisonnent la vie et on a du mal à passer outre ça dû à ce problème de noradrénaline, de neuronal qu'on ne sécrète pas la dopamine comme n'importe quelle personne. Donc ça vient de là.
Et est-ce que vous avez l'impression, vous me parliez de votre adolescence, on dit souvent que ce type de trouble est compliqué lors de l'adolescence pour ne serait-ce que lier des amitiés. Est-ce que ça a été votre cas d'abord lors de l'adolescence et est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que vous avez évolué par rapport à ce trouble? Est-ce que votre situation s'est améliorée? Vous avez un peu dompté tout ça?
Alors c'est très difficile de dompter ça au quotidien. C'est vrai que c'est un réel handicap, vraiment. Après, à l'adolescence, j'étais très renfermée sur moi-même. J'ai eu des amitiés, des gens qui m'ont vraiment beaucoup manipulée. Mm-hmm. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai pu quand même... les expériences de la vie négatives m'ont servi de tremplin.
Oui.
Et j'ai nettement évolué depuis à peu près 3-4 ans.
Oui.
Enfin, surtout 2 ans, ces 2 dernières années, parce que j'ai créé une entreprise sur quelque chose de très peu commun. Donc voilà, ça m'a fait énormément gagner en confiance. Mais pour dompter le TDAH, du moins les oublis, la course un peu après la montre, la gestion du temps, d'organisation, tout, y a plein, oui, de remèdes, mais c'est très compliqué parce que on est conscient du problème, on sait pourquoi, comment on n'arrive pas à faire les choses.
Mm-hmm.
Mais ouais, c'est dur de faire face parce qu'on est toujours en train de lutter contre soi-même pour corriger les choses.
Ouais.
On a l'impression que on a le temps de tout faire en fait, de toujours tout faire, mais en fait on n'a jamais le temps de tout faire et c'est là où à chaque fois ça nous met en rouge.
Mm-hmm.
Et on fatigue, on a le cerveau qui... Ben, en tout cas, moi, ça, quand j'ai plein de trucs à gérer, mais plein de petites choses, ben, en fait, on les oublie instantanément.
Bon, en tout cas, Lauriane, ce qui est bien, c'est de savoir qu'aujourd'hui, vous connaissez ce trouble, vous avez appris à maîtriser certaines choses et que vous venez de nous dire qu'à 35 ans, vous avez créé votre entreprise. Donc, c'est quand même génial. Vous vous sentez bien aujourd'hui?
Oui, bah, nettement mieux. Après, j'ai mon mari, évidemment, qui m'aide aussi de pallier à toutes les difficultés, qui me gère un petit peu sur beaucoup de choses, qui est vraiment très présent dans mon quotidien, qui m'aide parce qu'il connaît la difficulté.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est très difficile à vivre pour l'entourage.
Mais vous savez, je pense à tous les parents qui vous écoutent là, dont les enfants souffrent de ce type de trouble et qui pensent que leur enfant ne trouvera pas leur place un jour dans la société. Et merci pour votre témoignage aujourd'hui parce que je pense à tous ces parents qui voient que vous l'avez trouvé et que leurs enfants un jour feront comme vous, trouveront leur place dans la société. Et pour ça, mille merci pour votre témoignage aujourd'hui. Dans quelques instants, nous accueillerons Frédéric. Il a su qu'il était TDAH, donc quand il a fait diagnostiquer son propre fils. Aujourd'hui, il se bat pour plus de reconnaissance de ce trouble.
Europe 1.
Comme Lauriane, au 39-21, votre hyperactivité a été difficile à vivre pour vous, peut-être pour votre entourage. Vous témoignez au standard d'Europe 1. Vous réagissez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On parle du TDAH, du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Vous passez d'une idée à l'autre. En une seconde, vous avez du mal à suivre une conversation, impossible de ne pas bouger. Vous témoignez, 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous avons eu Lauriane au 39-21 dans la première partie de cette émission qui nous expliquait avoir été diagnostiquée plutôt tardivement de ce trouble de l'attention et avec hyperactivité. Et pourtant, avoir su trouver sa place et avoir même créé son entreprise avec l'aide de son mari. Donc il y a de l'amour dans tout ça. Nous sommes maintenant avec Frédéric. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Frédéric.
Merci, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Moi, j'ai presque 54 ans.
Oui.
Je suis domicilié à Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne, dans la Loire.
Oui.
Et j'ai découvert, comme vous l'avez déjà dit dans la présentation, justement, lors du diagnostic de mon fils aîné, qui a maintenant bientôt 15 ans, OK, un petit peu plus de 15 ans. Donc, il y a 10 ans, il a été diagnostiqué. J'étais encore aux Pays-Bas à ce moment-là, à 5 ans et demi pour le TDAH. Et là, en fait, ayant 44 ans moi-même, j'ai découvert, en fait, mon profil dans la description du bilan de mon fils aîné. Et c'est là que j'ai découvert, pas seulement que mon fils avait un TDAH, mais que moi, j'étais concerné aussi et qu'en fait, il tenait de moi, comme on dit.
D'accord. Alors, lorsque votre fils avait 5 ans, et qu'il a été diagnostiqué, quels signes avant-coureurs aviez-vous remarqué ?
Bon, en fait, c'est surtout l'école aux Pays-Bas, donc sa maîtresse qui nous avait mis la puce à l'oreille, comme on dit, qui remarquait que dans la classe, il décrochait vite, il n'était pas vraiment longtemps concentré, la lecture, c'était difficile, n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise, embêtait un petit peu les autres élèves, etc. Et c'est elle qui nous a mis en fait sur la piste, contacter un pédopsychiatre, donc service pédopsychiatrie, pour démarrer le bilan et venir donc à ce diagnostic.
Donc c'est en le diagnostiquant que vous-même, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des similitudes dans ce qu'on était en train de vous expliquer sur votre fils. Quel effet ça vous a fait d'abord, vous vous êtes dit, mais non, enfin voilà, quelle réaction vous avez eue?
Oui, bon, c'est un petit peu une surprise quand même, il faut dire. Bon, je me savais effectivement très actif toujours dans tout, à l'école, mais aussi déjà quand j'étais à l'école, je faisais beaucoup de choses à côté, comme activité, etc. Mais sans pour autant me poser des soucis ou sans pour autant que ça apparaisse à mes parents comme quelque chose de gênant.
Comment s'occupe-t-on alors d'un enfant atteint d'hyperactivité et vous, comment vous vous occupez de vous? Est-ce que on soigne votre fils aujourd'hui et pour vous, il y a eu d'autres choses de prescrits pour
Bon, maman, pour tout vous dire, en fait, mon fils a été donc tout de suite mis sous traitement, ce qu'on connaît ici comme le méthylphénidate, et donc il existe en plusieurs formes, hein, en France, donc Ritaline, Concerta, Clozine,
Ritaline,
Medikinet,
ouais.
Voilà. Donc, il y a aussi un autre traitement, mais qui donc n'est pas disponible là en France. Moi, ça fait donc 10 ans qu'il est sous traitement, et effectivement, ça fait jour et nuit, quoi. Depuis qu'elle a pris son traitement à l'école, tout allait beaucoup mieux, et en fait, un enfant qui était un petit peu légèrement en retard au niveau des apprentissages, il est devenu, en fait, un ou deux ans, en fait, un des meilleurs de sa classe grâce à ce traitement. Moi, ayant 44 ans à l'époque, en pensant que j'avais vécu déjà 44 ans sans me soucier de ça et surtout sans suivre son traitement, je n'ai pas vu tout de suite la nécessité de le mettre sous traitement. Or, dans les années, surtout, parce que là aussi, j'ai commencé à m'investir beaucoup dans le TDAH, hein, on en parle peut-être encore tout à l'heure, c'est que, au bout de quelques années, quand même, j'ai pu mettre le doigt sur certaines situations, aussi bien dans la vie familiale, sociale, comme au travail, où je dis, ah, tiens, arrête, ça aurait pu bien être un lien avec le TDAH.
Quel type de situation? Parce que je sais que ce type de trouble va souvent avec une hypersensibilité. Donc,
Oui.
lorsque vous parlez de situations spéciales, bah, je sais pas, donnez-moi un ou deux exemples où vous êtes
Bon,
aperçu.
oui, bon, on va dire l'impulsivité. L'hypersensibilité liée à l'impulsivité, excusez-moi, c'est effectivement, par exemple, il pourrait m'arriver dans le travail ou même en privé, par exemple, recevoir un email qui m'a mis en colère et que dans cette colère que j'arrive donc à gérer, que j'ai répondu tout de suite à un email, mais de façon tellement impulsive qu'en fait,
Impulsive,
après, je
oui.
regrettais de l'avoir fait. Vous voyez?
Vous avez eu envie de monter une association pour parler des personnes TDAH en France, parce que ça n'est pas assez reconnu. Est-ce que vous avez trouvé qu'entre la Hollande et la France, il y avait une grande différence dans la reconnaissance de ces troubles?
Oui, c'est même une énorme différence. Déjà, de toute façon, les médecins spécialistes en France en sont d'accord entre eux qu'en France, il y a à peu près 30 ans de retard dans le suivi, la diagnostic, etc., la prise en charge du TDAH. La France regarde souvent faire le Québec, qui est encore un pays qui est bien en avance par rapport à ça. Mais par le réseau que j'ai maintenant aussi donc avec des personnes au Québec, le Québec pense la même chose sur les Pays-Bas. Donc, c'est pour vous placer un petit peu la chose. Effectivement, les Pays-Bas sont quand même assez en avance. Le TDAH est très bien reconnu, accepté par le grand public aussi. Il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de jugement
Non.
vers les parents
Par
d'un enfant
l'école
TDAH.
aussi.
L'école non plus. Les écoles sont très, très bien et accueillantes aussi. C'est que donc les enseignants aux Pays-Bas sont formés aussi sur tout ce qui est troubles, pas seulement TDAH, hein, mais tous les troubles qui peuvent exister, comme aussi les 10, le
Dyslexie,
potentiel, autisme, dyslexie. Voilà.
dyspraxie, voilà.
Ouais.
Mon cher Frédéric, j'espère que quelqu'un au ministère de la Santé, en charge de ce type de questions, vous aura entendu et peut-être réfléchira et poussera un peu plus loin la réflexion. Merci beaucoup pour votre appel et pour votre témoignage édifiant cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour mieux comprendre ce qu'est l'hyperactivité, nous serons dans quelques instants avec le docteur Herri Konofal. Il est l'auteur de l'ouvrage « L'histoire illustrée de l'hyperactivité, TDAH et ses traitements au fil du temps », disponible aux éditions Impulsion Naturelle.
Europe 1.
On parle du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Venez nous raconter comment ça se traduit dans votre quotidien, votre histoire au 3921. Vous ne pouvez pas vous consacrer à une tâche sans vous interrompre. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous parlez à toute vitesse. Vous souffrez d'hyperactivité. Est-ce que c'est le cas de l'un de vos proches? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Herri Konofal. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Merci à vous Olivier aussi, je vous ai entendu, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous venez de dire. Et je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter à tout ce que j'ai à entendre.
Mais il y en a beaucoup à rajouter, docteur, je pense.
Ah, d'accord.
D'abord, pourquoi dit-on de certaines personnes qu'elles peuvent avoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Qu'est-ce que cela veut dire exactement pour que ceux qui nous écoutent cet après-midi comprennent bien ce que c'est?
En fait, tout simplement parce que le trouble déficit de l'attention hyperactivité est un trouble qui touche les mécanismes de l'attention au premier effet. C'est je ne suis pas capable de sélectionner une information pour y répondre de façon adaptée. Donc, finalement, je suis enclin à faire un peu n'importe quoi. L'enseignant me parle, je ne l'écoute pas, je vais me lever alors que j'ai cru entendre la cloche sonner. Mmh. Donc, si on peut effectivement dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça veut dire que le déficit de l'attention, on l'a. L'hyperactivité, si on va dire on se retrouve dans une situation où on ne peut pas physiquement bouger, on va dire, sur le plan dynamique non plus, on ne va pas forcément montrer un symptôme, quand bien même ce symptôme peut venir à un moment donné où personne ne va prêter attention à ce qu'on va faire, etc. Donc, ce n'est pas forcément un symptôme visible pour tout le monde.
À partir de quand sommes-nous arrivés à mettre des mots et des symptômes sur ce trouble ?
Écoutez, moi je pense, et je vous remercie d'avoir cité le livre sur l'histoire de l'hyperactivité qui m'a pris 10 ans pour l'écrire et pour rassembler toutes les informations. On peut remonter probablement déjà, mais de façon très concrète, avec des descriptions très, très concrètes, avant le 18e siècle, au 19e siècle, alors là on en a énormément, c'est décrit, le trouble déficit de l'attention hyperactivité est décrit sous d'autres noms, oui. On parle d'aprosexie, de turbulence, on parle de mauvaise coordination d'attention involontaire, y a d'autres choses, mais finalement on retombe sur à chaque fois la même chose, ça veut dire on bouge, et on bouge parce qu'on n'est pas capable de répondre de façon adaptée, avec notre conscience. On n'est pas capable de nous organiser dans une tâche à mener. Voilà. Mmh. Donc, depuis le 19e siècle, c'est parfaitement décrit.
On peut se dire que tous les enfants, ou presque, sont dissipés, impulsifs, en tout cas, que, voilà, ils ont une nature à remonte. Alors, comment distinguer un état normal de l'enfant de celui d'un enfant atteint d'un TDAH ?
Si on est remont et qu'on fait souffrir personne et commencer par soi-même, c'est quelque chose d'une variante de la normale. Les enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. Vous avez des enfants qui vont pleurer parce qu'ils ont blessé leurs petits camarades, parce qu'ils leur ont marché dessus, parce qu'ils ne l'ont pas vu. Mm-hmm. Donc c'est une véritable souffrance.
Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être décèlent chez leurs enfants un début, en tout cas qui voient qu'il y a quelque chose qui bouge un peu plus que chez les autres enfants, comment peut-on les aider, ces parents, les accompagner, à d'abord faire diagnostiquer leurs enfants et puis ensuite les accompagner tout simplement lorsque ils sont diagnostiqués TDAH.
D'abord, lors de la consultation, on va donner en quelque sorte un peu des lignes à suivre, mais ceux qui font vraiment un très gros travail, un très beau travail, sont les associations. On a de magnifiques représentants d'associations qui font un travail colossal et qui amènent les parents justement à supporter ce poids de la culpabilité dans laquelle on les renvoie systématiquement. Et ça, c'est très important. Retirer aux parents cette culpabilité, retirer aux parents et aux enfants cette culpabilité, aussi s'armer, parce que finalement ces enfants-là sont des enfants qui vont avoir des très beaux parcours si on s'en occupe très bien affectivement sur la rééducation et sur les traitements qu'on va leur administrer, et les finalités, les histoires sont toujours très très belles, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut vraiment insister on va vous aider, vous allez voir, ça va marcher et ça va être superbe. Et on implique vraiment dans le pronostic thérapeutique les parents à part entière. Et ça, c'est très important. Il faut les renforcer, les parents. Il faut leur donner des outils pour aller voir les enseignants, pour discuter avec eux, pour expliquer déjà que ça a toujours existé, parce qu'on en est déjà, même presque encore toujours là, des enseignants ou des gens disent, écoutez, votre enfant, il est mal élevé, vous en occupez pas bien, et puis voilà, c'est tout, mettez-lui une bonne paire de claques, et puis ça va aller.
On en est malheureusement là, on en parlait justement avec Frédéric tout à l'heure. Restez en ligne avec nous, docteur Eric Konofal. Je rappelle que vous êtes médecin à Paris et auteur de l'ouvrage L'histoire illustrée de l'hyperactivité, TDAH et ses traitements au fil du temps. Vous allez continuer à nous apporter vos éclairages. Nous serons dans quelques instants avec Christine. Elle a beaucoup souffert justement du regard et du jugement des autres face aux troubles de son fils.
Europe 1. Vous êtes atteint du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est le cas de l'un de vos proches. Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Une organisation quotidienne défaillante, une humeur changeante, une attention irrégulière, l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se soigne ? Vous êtes concerné, vous êtes avec Olivier Delacroix et vous témoignez au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Christine. Bonjour Christine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, moi, j'ai 58 ans.
Oui.
Et je vous appelle de Vendée. Donc, je fais beau temps.
D'accord, parfait. Alors, voilà. Christine, votre fils a été diagnostiqué dans les années 2000. Il avait alors 16 ans. Que vous a-t-on dit sur ce qu'il avait exactement à ce moment-là?
On m'a dit qu'on ne voyait pas trop où était le problème, que j'avais de bonnes relations avec mon fils,
oui.
Que donc forcément, il n'y avait pas de problème, puisque comme mon mari ou comme moi, on était capable d'avoir un bon dialogue. Donc il n'y a pas de problème, sauf qu'à l'époque, le fils, il était souffrant, il était dans un état suicidaire.
Vous aviez l'impression qu'à l'époque, il était incompris, hein, que personne ne savait ce qu'il avait, ce dont il souffrait. Comment était-il, ce garçon? Votre garçon, il était introverti, il était timide?
Il était ni introverti, ni timide. C'est un garçon qui était assez tranquille, mais
oui.
Il était très distrait.
Très distrait.
Une distraction, c'était un jour de la lune, quoi.
D'accord.
Il était tellement décalé. Je me souviens d'une fois, il racontait en cours de, vous savez, les cours d'histoire et de géographie où l'enseignant passe d'une matière à l'autre.
Ouais.
Et comme lui, il était resté sur un moment du cours, il est intervenu en plein milieu, à un moment donné, il lève le doigt, le professeur l'interroge. Et en fait, il était sur la demi-heure d'avant.
Oui.
Enfin, il s'était passé 30 minutes entre sa réaction et le cours qui s'était déroulé. Et donc, tout le monde s'est moqué de lui.
Oui. Je me tourne vers vous, Eric Konofal. On entend Christine expliquer combien peut être dur le regard des autres. Mais surtout, en fait, j'ai l'impression, en écoutant Christine, qu'on peut sous-entendre aussi que cet enfant, à 16 ans, hein, qui était grand hein, déjà, qu'il pouvait peut-être être mal éduqué. Est-ce que ce préjugé qui voudrait que l'hyperactivité soit en fait un problème d'éducation, vous en entendez parler souvent?
Bah, oui, parce que de toute façon, à un moment donné, on s'étonne que des parents qui par exemple, font leur course avec leurs enfants, on s'étonne que les enfants courent, touchent à tout. Et évidemment, les gens autour constatent, observent et finissent par interpeller des fois les parents.
Ouais.
Voilà.
Mmh.
Simplement... Encore une fois, les parents bien armés vont répondre, écoutez, voilà, il touche à tout, il a besoin de bouger, c'est son mode de fonctionnement. Si vous préférez qu'il crie, parce que je vais le remettre dans le caddie, on va faire l'expérience, et puis on attrape l'enfant, le met dans le caddie, il se met à hurler, etc. On dit, voilà, vous voyez, et puis on va pouvoir lui mettre une fessée devant vous allez voir, ça ne va rien faire. Enfin, on n'en est peut-être pas quand même malade, mais globalement, les parents ont besoin d'être armés parce qu'effectivement, c'est un reproche qu'il aurait fait de mauvaise éducation. Et il y a plus loin, parce que finalement, Christine m'avait raconté cette anecdote d'un parent qui arrive dans une pharmacie et le pharmacien parle à son associé et dit, tu vois, avant, elle ne savait déjà pas élever ses enfants, maintenant, elle a trouvé une solution pour les éduquer, elle les drogue en venant chercher le médicament. Vous voyez, ça va même encore plus loin dans la culpabilité.
Ouais, j'ai envie de vous dire que ce type de réflexion de la part d'un pharmacien traduit combien ces troupes sont en France aujourd'hui, ils ne sont pas connus et qu'on commence grâce à des études comme la vôtre, Eric Konofal, grâce à un ouvrage comme le vôtre et puis au combat hein, de Christine qui a créé une association. D'ailleurs, on pourra trouver l'adresse de l'association de Christine sur le site de l'émission, de notre émission. Mais en tout cas, on en est au début et c'est pour cela qu'il faut se battre pour qu'on sache que ça n'est pas un problème d'éducation, bien évidemment, mais que ce diagnostic, il est fait et que ce trouble existe bien et qu'il touche de nombreux enfants. Merci beaucoup, Christine, pour votre appel et pour votre témoignage, en tout cas cet après-midi, sur l'antenne d'Europe 1. Eric Konofal, vous restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Régine. Son mari n'a pas été diagnostiqué, mais il a tous les symptômes d'une personne hyperactive au quotidien. Ce n'est pas toujours simple.
Europe 1.
Impulsivité verbale et motrice, perturbation de l'attention, vous êtes atteint du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est le cas d'un de vos proches, 3921 pour nous raconter. Sur Europe 1, nous parlons de l'hyperactivité, votre cerveau toujours en ébullition, mais pas seulement, votre humeur changeante, vous courez après les choses, comment le vivez-vous et que faites-vous pour lutter contre? Vous échangez avec Olivier Delacroix au 3921.
Et nous accueillons maintenant Régine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Régine, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Régine?
Alors, j'ai 54 ans et je vous appelle du bassin d'Arcachon.
D'accord, quelle chance d'habiter au bord de ce beau bassin d'Arcachon. Alors vous, Régine, votre mari au quotidien a du mal à se poser, il a du mal à se concentrer. Et à la maison, ça se manifeste comment, dans quel moment, par exemple?
Oh, c'est un peu tout le temps. Souvent, quand j'ai quelque chose à lui dire, je cours après lui parce qu'il est déjà parti sur une autre activité. Ou alors, il commence quelque chose et puis il embraye sur autre chose et puis il se perd un peu dans ce qu'il a fait. Donc, je dois un peu le cadrer, en fait. Mmh.
Il a toujours été comme ça? Vous avez remarqué dès le départ trouble?
Oui. On se connaît depuis 30 ans et quand il était jeune, puisque je l'ai connu à peu près à 22 ans, au début, il perdait ses clés. Voilà, il perdait beaucoup les clés. C'était très, très embêtant pour nous parce qu'on ça nous mettait toujours en retard.
Oui.
Et je trouvais ça très étonnant parce qu'à 20 ans, on sait quand même où on met ses affaires, on n'a pas un problème de mémoire. Et en fait, parce que dans la précipitation, il les avait posés quelque part, après il savait plus ce qu'il avait fait. Et puis voilà, du coup, il cherchait. Donc ça commençait comme ça, en fait. Mmh. Voilà.
Quel impact cela a eu sur votre vie de couple? Parce que je crois savoir que vous dites que vous avez un mari fantôme. Donc le sport, les activités, ça veut dire qu'il n'est pas beaucoup à la maison, ce mari.
Voilà, j'ai souvent dit ça parce qu'effectivement, il a toujours besoin de... Bon, il a beaucoup travaillé, évidemment, mais maintenant, il est moins sollicité par son activité professionnelle. Et malgré tout, il est toujours... Oui, je dis que j'ai un mari fantôme parce qu'il a... Comme il a besoin de faire beaucoup d'activités, il a besoin d'occuper ses journées, parce que sinon, ça l'angoisse.
Oui.
Il est tout le temps parti. Des fois même, il est parti, je ne m'en suis même pas rendu compte. Moi, je l'appelle et je lui dis « Où es-tu ?» Et puis non, il est déjà parti faire autre chose. Mm-hmm. Il me dit « Je vais faire quelque chose » et puis hop, il s'en va.
Alors aujourd'hui, je sais que vous soupçonnez que votre fille en soit atteinte aussi de ce trouble de TDAH. Vous pensez à la faire diagnostiquer?
Bah, elle est grande, elle a 27 ans, donc c'est à elle de prendre la décision.
Oui, ça serait important quand même.
Je ne m'étais pas trop rendu compte de ça quand elle était petite, mais c'est en grandissant, en fait, plus elle grandit, plus elle a un peu le même symptôme que son père. Dès qu'elle a, elle supporte pas en fait une activité. Il faut toujours, même quand elle est en week-end, quand elle est libre, il faut toujours qu'elle remplisse son agenda 100%, qu'elle se trouve 36 000 choses à faire. Même le soir, en rentrant du travail, elle ne rentre pas directement. Elle se trouve encore du sport, encore d'autres occupations. Elle fait un peu aussi pareil. Mmh.
Docteur Eric Konofal, bien évidemment, en écoutant Régine, j'ai envie de vous poser la question de l'hérédité. Est-ce qu'il y a un côté héréditaire dans ce trouble?
Absolument, il n'y a pas de cas sporadique, il n'y a pas des enfants qu'on voit dans une famille et qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant dans la famille. Il y a une très forte, effectivement, héritabilité. On hérite de nos parents un certain nombre de choses, des traits de caractère, et pas simplement. Quand on a un enfant qui a un trouble déficit de l'attention et hyperactivité, au cours de la consultation, de la première consultation, vous avez toujours un parent qui va vous glisser une larme parce que vous êtes en train de rappeler quelque chose qu'il a vécu. Et ça, c'est quelque chose de fort qui va nous permettre en plus, derrière tout ça, de pouvoir préconiser des mesures et commencer à installer un vrai dialogue, un vrai échange avec les parents. Mmh. Et c'est ça qui est très fort, c'est que dans ces familles, d'ailleurs, les gens que vous avez interviewés sont concernés, soit parce qu'ils ont créé une association, parce qu'ils avaient des... Mais on voit bien qu'ils sont impliqués plus que comme des parents. Il y a aussi le côté, moi aussi, quelque part, ça m'a beaucoup aidé. Vous ne créez pas une association par hasard, vous la créez aussi, quelque part, parce que... Alors, vous n'allez peut-être pas aller faire du sport en salle, mais vous allez créer une association, vous voyez. Je fais un petit clin d'œil parce que c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait une réalité. Parce que s'il y avait de temps en temps un cas comme ci, par-ci, par-là, on se dirait, mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette famille? Alors que là, on voit bien qu'il y a une filiation réelle. Et c'est très amusant de poser la question, de dire « Bonjour madame, vous êtes venue avec votre fils, votre mari n'est pas là ?»« Ah ben non, parce qu'il est représentant international, il ne pose jamais pied sur terre, il est tout le temps dans les avions.
»
c'est pas anodin non plus, c'est parce qu'il ne peut pas tenir en place et que son métier, c'est justement de bouger parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et tout ce qu'on vient d'entendre là, et le cas de Régine est presque édifiant et cas d'école, c'est qu'effectivement, son mari, c'est l'Arlésienne, probablement parce qu'il a besoin de bouger.
Et surtout, Et surtout, j'avais l'impression que cela résonnait fortement avec le témoignage de Frédéric tout à l'heure, qui était représentant en commerce international. Et finalement, l'un fait du sport, est parti à droite, à gauche, à plein d'activités. Et puis, on avait ce témoignage de Frédéric, qui était d'origine hollandaise. Et j'avais l'impression qu'on était dans la même quête, toujours la même course pour éviter ce vide que ces personnes qui sont atteintes de ce trouble de TDAH ressentent, ce fameux vide. Vous restez en ligne avec nous, Eric Konofal. Merci beaucoup à vous, Régine, de nous avoir fait partager votre quotidien et votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, on sera avec Virginie. Sa fille a été longtemps malheureuse et ne comprenait pas pourquoi. Aujourd'hui, tout s'explique.
Europe 1. Très souvent tendu, vous bouillonnez de l'intérieur, agité, vous ne fixez pas votre attention, vous êtes atteint du trouble de l'hyperactivité. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons de l'hyperactivité aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ?
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Virginie. Bonjour Virginie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Virginie ?
Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 49 ans, j'ai deux enfants, Laurine, 22 ans, et Marianne, 16 ans actuellement.
D'accord. L'une de vos deux filles a été testée dès l'âge de 12 ans et a été diagnostiquée TDAH. Qu'est-ce qui vous a alerté au départ ?
Au départ, quand elle était toute petite, à l'âge de 2 ans, elle pleurait beaucoup pour tout et n'importe quoi, pour réclamer les choses et tout ça. Et ensuite, dans le primaire, elle n'avait pas d'amis, elle restait souvent seule dans la cour de récréation. Mmh. Et à partir du collège, c'est là où on a commencé à être alertée et aller voir les spécialistes. Pour la tester.
Comment, parce que, voilà, sans parler de déni, hein, Virginie, à ce moment-là, vous ne posiez pas de questions, à quoi vous attribuez ça ? Vous disiez quoi de votre fille ? Qu'elle était timide ? Qu'est-ce que vous disiez ?
Non, je disais que c'était une enfant comme une autre, qu'il n'y avait pas de diagnostic de poser, donc on ne se posait pas beaucoup de questions à cette époque-là.
Mmh. Alors, en fait, donc, comme vous l'avez dit, c'est à l'âge de l'adolescence que vous l'avez fait diagnostiquer. Ça a été un soulagement pour vous ?
À la fois un soulagement et à la fois en colère de ne pas avoir diagnostiqué assez tôt ce trouble où on aurait pu peut-être faire des choses plutôt pour ma fille, mais on sait ce que c'est et elle vit et on vit avec.
Mmh. Quel impact ce diagnostic a-t-il eu sur votre vie ? Est-ce que vous avez souffert de ce diagnostic ? Est-ce que votre vie a été mise entre parenthèses ? Est-ce que comment votre vie s'est transformée à partir de ce diagnostic ?
À partir de là, la vie à la maison, elle a été compliquée parce qu'on avait rendez-vous, Marianne avait rendez-vous avec plusieurs spécialistes, les pédopsychiatres, les psychologues, et puis ça génère chez ces enfants-là des impulsivités et ça se manifeste par des crises importantes où elle peut tout jeter par terre. Alors, dans ce moment-là, nous, parents, on ne sait pas quoi faire. On ne sait jamais comment la calmer. On est très angoissés. Et du coup, c'est difficile de gérer la crise, quoi.
Comment est-ce que vous êtes accompagnée aujourd'hui ? Par qui, en fait ? Vous voyez des spécialistes ? Qui vous accompagne aujourd'hui ?
Alors, Marianne est accompagnée par des spécialistes par l'hôpital de jour,
oui.
Pédopsychiatre, éducateur et psychologue.
Mmh. Où ça ?
Et l'hôpital de Saint-Cyr, à côté de Lyon.
D'accord. Et est-ce que ça semble avoir amélioré son quotidien depuis ?
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, il y a un grand changement. On voit vraiment un grand changement du comportement de Marianne depuis qu'elle est suivie. Elle est suivie depuis juin dernier.
Ouais. Et quel changement ?
Le changement du comportement, de la communication avec nous. Mmh. Elle arrive à mieux communiquer avec nous. Ouais. Alors qu'avant, elle restait très enfermée. Elle rentrait à la maison, elle allait directement dans sa chambre et elle ne nous parlait pas.
Mmh. Quel âge elle a aujourd'hui ?
Elle a 16 ans.
Bon. Est-ce que vous êtes moins inquiète pour son avenir aujourd'hui ? Est-ce que vous vous la voyez s'ouvrir de plus en plus, donc ça, voilà, ça va peut-être s'ouvrir encore plus même sur les autres.
Alors la vie en société, elle est difficile pour elle quand même, car elle est quand même rejetée, même si elle est au lycée maintenant.
Elle est en quelle classe là ?
Elle est actuellement en seconde.
Ouais.
Elle va pas encore vers les autres pour pouvoir discuter ou parler. Mm-hmm. Elle va plus facilement, elle aime plus facilement aller avec le contact des adultes.
Oui, mais c'est pas
plus facile, voilà. Pour elle.
Mm-hmm. Mais ça voilà, ça passe par là pour l'instant. Et puis peut-être que plus tard, ça passera par les gens de son âge. En tout cas, j'ai comme l'impression que les choses vont mieux, non ?
Oui, ça, elles évoluent vraiment vers le mieux. Et on est très contents, nous, en tant que parents, d'avoir trouvé ces spécialistes et cet hôpital qui puisse aider Marianne. Et à la fois, c'est un grand, grand soulagement pour moi et son papa et sa grande sœur.
Bon, merci beaucoup Virginie pour votre appel et pour votre témoignage. Merci aussi à Lauriane, merci à Frédéric, à Christine et à Régine et au docteur Eric Konofal pour ses éclairages, pour ses analyses. L'hyperactivité est dure à vivre, mais une fois le diagnostic posé, c'est souvent un soulagement et le début d'une prise en charge pour mieux vivre le quotidien. De nombreux ouvrages existent sur le sujet, notamment celui d'Eric Konofal, et des médecins peuvent vous orienter si vous en avez besoin. N'hésitez pas en tout cas à en parler et puis on peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, vous avez été nombreux à réagir tout au long de cette année, j'ai envie de dire, même depuis septembre dernier sur ces troubles. Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons du don d'organes. Est-ce que le don d'organes reste tabou ? Alors si vous êtes greffé, si vous êtes en attente de greffe ou si vous avez donné l'un de vos organes, appelez-nous au 3921 et Ombline et moi-même serons là pour vous écouter.